Comment, au regard de la théologie chrétienne, penser la revendication d'euthanasie? Alors, je parle de la revendication. Quel sens donner à la revendication d'euthanasie active? Eh bien, on peut dire que, d'un point de vue théologique, c'est une revendication d'auto-salut, de salut par soi-même. On se sauve soi-même de l'enfer terrestre, de la souffrance, les instruments du salut étant le médecin et la pharmacologie. Je remarque, en contraste, que dans la Bible, les croyants qui souffrent demandent parfois la mort, comme le prophète Élie, mais ne se la donnent jamais. Ils ne se délivrent pas eux-mêmes. Et Judas n'est pas justement est un contre-exemple. C'est l'exemple de celui qui ne remet pas sa vie à Dieu, mais qui justement par le suicide, signifie encore sa séparation avec Dieu, son contrôle sur sa propre vie. Alors nous sommes dans un contexte sécularisé en Occident. C'est bien de dire d'ailleurs que de parler de notre contexte, parce que c'est un contexte qui, du point de vue de la planète, est un contexte minoritaire. En Afrique, on n'a pas la même conception de la fin de vie, de l'après, après la mort, etc. Mais nous, en contexte occidental sécularisé, donc nous sommes dans un contexte de perte de la crainte de Dieu, de perte de l'horreur devant certains homicides. Je pense devant l'homicide d'enfants handicapés à naître. Devant l'homicide de personnes âgées, j'ai été très choqué dans l'affaire du docteur Bonnemaison. Je ne me prononce pas sur l'affaire parce que je n'ai pas les éléments, mais avec les éléments qu'on avait, il semblerait que donc, ce soit des personnes âgées qui aient été euthanasiées sans leur consentement. Ce qui m'a choqué, c'est le soutien massif, y compris de collègues, hein, puisque vous savez que l'Ordre des médecins a refusé, régional a refusé de condamner, donc le président, choqué par cette non-condamnation, a démissionné. Ça, c'est significatif d'un contexte mental. C'est ça qui m'inquiète. Alors, on l'a vu, il reste quand même une certaine horreur devant le fait de tuer un être humain. Il n'y a pas disparition complète de toute crainte de Dieu, de toute conscience humaine, grâce à Dieu. Alors, cette question de l'euthanasie, elle pose aussi aux chrétiens la question de l'articulation entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine. Dieu est souverain. Dieu est maître de la vie et de la mort. Deutéronome 32, verset 39. C'est moi seul qui suis Dieu. Moi, je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris. Ambroise Paré, le chirurgien Ambroise Paré au XVIe siècle, a merveilleusement dit cette articulation quand il dit à propos d'un malade, je l'ai pensé, Dieu l'a guéri. Alors, c'est un peu l'avantage de Wikipédia. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il prononce cette parole, il écrit cette parole dans son journal, à l'occasion d'un acharnement thérapeutique. C'était quelqu'un qui avait été percé de 12 coups d'épée et qu'il a, avec l'aide de Dieu, remis sur pied. Donc, je l'ai pensé, Dieu l'a guéri. Alors, la souveraineté de Dieu inclut la liberté humaine et la responsabilité. La souveraineté de Dieu inclut la liberté humaine et la responsabilité. C'est une vraie liberté de choix. Ce n'est pas une liberté absolue. Ce n'est pas une autonomie totale, mais une liberté relative aux capacités que Dieu nous donne. Nous sommes libres d'agir en réponse au Dieu qui agit. Dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 1, on trouve cette question de la souveraineté et aussi de la liberté. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, dit-il. Et verset 5, à cause de cela, faites tous vos efforts pour ajouter à la piété la connaissance, etc. Donc, Dieu nous a tout donné, faites tous vos efforts. Non pas opposition entre souveraineté de Dieu et liberté humaine, mais valorisation du donné divin par le travail humain. Alors, c'est vrai que, c'est pas toujours facile de penser cette souveraineté de Dieu dans nos situations particulières, mais je crois qu'il y a une question de posture et d'accepter que je ne suis pas dans la tour d'aiguillage, mais je suis sur le quai de la gare. Voilà, hein, dans la tour d'aiguillage, c'est Dieu. Comme dit le livre des Proverbes, chapitre 16, les hommes forment des projets, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Voilà. Mais nous sommes appelés à former des projets, à faire des efforts, mais aussi à exposer nos projets à Dieu. Proverbe 16, verset 3, « Expose ton activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets. » Alors, puis-je déterminer à l'avance ou là où s'arrête ma responsabilité comme soignant? J'ai une obligation de moyens, selon mes moyens, mais le résultat, eh bien, appartient à Dieu. Alors, dans la théologie catholique, depuis longtemps, sur la question de l'emploi des moyens médicaux, on a parlé tout d'abord de distinguer entre des moyens ordinaires et extraordinaires, et puis, plus récemment, et ça semble un langage plus juste, dans le traitement d'une maladie, de moyens proportionnés et disproportionnés. Alors, je crois que il faudrait aller plus loin, et dire que les moyens doivent être proportionnés aux bienfaits pour le malade. Pour être très précis, un médecin disait que, gériatre, que maintenant, on se posait la question, avant de faire une gastrostomie, est-ce que ça va apporter un confort au malade? Voilà, ça, c'est prendre soin. Alors, Dieu donne une responsabilité à l'être humain. Revient-il à l'homme de tuer? Dans l'Ancien Testament, je dirais oui, puisqu'il y a la peine de mort et la guerre. Mais ces domaines ne rentrent pas dans la catégorie de l'interdit du meurtre. C'est un autre vocabulaire. Tu ne commettras pas de meurtre. Ce n'est pas le même vocabulaire qui est utilisé pour la peine de mort et pour la guerre. Là aussi, voilà, un État qui prend la décision d'entrer en guerre pour se défendre, eh bien, prend une responsabilité. Alors, je crois que le rapport médecin-malade ne doit pas entrer dans cette question de l'autodéfense. Le malade ne rentre pas dans la catégorie des ennemis contre lesquels il faudrait lutter. On peut se poser la question, hein, à moins, et c'est là le problème, ça a été évoqué, à moins de réduire le malade à un coût économique ou une gêne sociale. C'est un fait objectif. C'est Dieu qui décide de la vie et de la mort. Mais ce fait, je dois le confesser dans la foi. Tu es Seigneur. C'est une réalité objective en dehors de ce que je crois ou je ne crois pas. Dieu est maître de la vie et de la mort. Mais cela, je dois aussi le confesser moi-même, le reconnaître. Voilà. Et peut-être dans la position du médecin, il y a un moment où on doit s'arrêter pour dire à Dieu, c'est toi le Seigneur. Alors, comment cette souveraineté, comment l'articuler avec la responsabilité dans les cas limites bien sûr, le médecin réanimateur doit prendre des décisions, et des décisions qui vont mener à la mort, dans certains cas. Alors, je crois qu'il peut se situer dans ce cadre de la souveraineté de Dieu, en reconnaissant que c'est Dieu qui fait mourir et qui fait vivre, que ce n'est pas lui. Il doit se poser la question, est-ce qu'en m'acharnant techniquement, je ne glisse pas dans la toute-puissance? Est-ce que je ne refuse pas de voir la mort qui vient? Est-ce que je ne la prends pas comme un échec personnel? Est-ce moi qui fais vivre? Donc, reconnaître la mort qui vient. Je crois que cette parole, c'est moi qui fais vivre et qui fais mourir, elle est très libératrice. Elle peut être libératrice aussi pour les proches. Parce que cette parole, elle met à bas l'illusion que notre amour pourrait garder en vie celui qui va mourir. Et là, je pense à... C'est un peu personnel. Nous avons perdu il y a quelques années, mon épouse était enceinte de 8 mois, et l'enfant est mort in utero. Et le médecin qui l'a annoncé à ma femme lui a dit, la vie et la mort, c'est Dieu qui décide. Et c'est une parole qui lui a fait du bien. Alors je ne sais pas, c'était assez étonnant de la part d'un médecin de dire cela. Est-ce que lui était lui-même chrétien? Je ne sais pas, mais voilà. C'est une parole aussi qui nous console. Nous ne sommes pas tout-puissants. Dieu me donne une intelligence pour analyser, me confie la responsabilité de vouloir, mais je n'ai pas tout pouvoir. Me placer devant Dieu et devant sa parole éclaire mes motivations, mes actions et ma manière d'être avec mon prochain. Me placer devant Dieu et devant sa parole éclaire mes motivations, mes actions, ma manière d'être. C'est aussi pas simplement dans ce que nous faisons, mais dans notre manière d'être comme soignant que nous transmettons quelque chose. Et là, on peut se rappeler l'avertissement du livre des Proverbes, Proverbes 16, verset 2. Chacun pense agir toujours correctement, mais c'est le Seigneur qui examine le fond du cœur. Oui, c'est le Seigneur qui examine le fond du cœur. Alors, quelques repères chrétiens. Dieu donne la vie. Nous n'en sommes pas les maîtres, mais nous en sommes responsables. Nous sommes responsables de ce que nous faisons de notre vie, et nous sommes responsables de ce que nous faisons de la vie de notre prochain. Ne répondons pas comme Caïn, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Mais cette affirmation de Caïn n'est-elle pas l'affirmation de l'individu autonome « Ça ne me concerne pas, suis-je le gardien de mon frère ?» que nous entendons aujourd'hui. Nous sommes responsables du soin que nous prenons de notre vie et de la vie de notre prochain. Tout être humain est en image de Dieu, qu'il soit handicapé, qu'il soit vieillissant. Il y a une dignité de toute vie humaine devant Dieu. Dire que Dieu est le maître de la vie et de la mort, c'est reconnaître sa finitude. Nous sommes limités, nous ne sommes pas Dieu et nous ne sommes pas maîtres de la vie et de la mort. Dieu interdit le meurtre. Je crois qu'il y a vraiment cette loi de Dieu, elle fait écho en nous. Je pense à ce que me disait un infirmier. Il y avait un malade qui était atteint d'une tumeur dans le cou, et donc le danger, c'est que cette tumeur, en se développant, rompe la carotide, ce qui était un risque d'une mort atroce. Et le médecin lui a dit, écoutez, voilà, hein, si vous savez ce que vous devez faire. Et l'infirmier lui a dit, faites-le. Ben oui, c'est... Voilà, il s'est défendu en disant, voilà, si vous voulez que cet acte soit fait, assumez-le. Il est un peu délicat de parler du caractère sacré de la vie par rapport à la Bible, parce que c'est vrai que dans la Bible, il y a la peine de mort. Alors, c'est un registre de peine dans l'Ancien Testament, donc ça ne conditionne pas le registre des peines sous la Nouvelle Alliance, hein, donc on ne va pas rentrer dans le débat là, sur la peine de mort, et qu'il y a la guerre. Mais on sent, je pense que c'était ancré... Dieu a ancré en nous ce côté que prendre la vie d'un être humain, eh bien, c'est porter atteinte à Dieu. Hein. De même que tuer l'ambassadeur d'un pays, c'est porter atteinte au chef de ce pays. Nous sommes, comme des représentations de Dieu. Hein. Être en image de Dieu, c'est comme être une représentation. Il y a un jugement intéressant de la Cour suprême du Canada de 1993 que je vous cite par rapport à une demande de suicide assisté qui a été refusée par cette Cour suprême. Les attendus de ce jugement, c'est que l'État, en édictant l'interdiction de l'aide au suicide, vise à protéger la personne vulnérable qui, dans un moment de faiblesse, pourrait être incitée à se suicider. Pour le juge Sopinka, qui explique ce choix est un élément de notre conception fondamentale du caractère sacré de la vie humaine. C'est assez impressionnant quand même d'avoir ça. Je pense qu'on n'aurait pas ça en France. Mais c'est intéressant de voir d'autres cultures où la sécularisation ne règne pas, parce que nous finissons, nous aussi, par être contaminés par cette sécularisation de nos sociétés françaises. Alors, non seulement Dieu interdit le meurtre, mais positivement, c'était déjà dans l'Ancien Testament, mais Jésus va en faire le centre de la loi, Dieu nous commande d'aimer notre prochain. Alors, aime ton prochain, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Sur cette question de l'euthanasie, c'est vrai que ce commandement d'aimer son prochain comme soi-même n'est pas si évident que cela, peut-être à mettre en pratique. Parce qu'il faut dire tout de suite qu'il y a le problème de la projection. Et dans l'affaire Christine Malèvre, hein, cette infirmière qui a tué plusieurs malades, eh bien, il y avait vraiment une projection de ce qu'elle pensait, elle, sur ces malades qui ne demandaient pas forcément l'euthanasie. Au fond, elle cherchait non pas le bien du malade, mais son propre bien. C'est vrai, les soignants sont soumis à des pressions, des familles, il y a pression aussi du travail, donc il y a un épuisement des soignants qui peut les amener à prendre aussi leur désir pour les désirs du malade. Et ici, je voudrais citer Donc il y a un effet de miroir, de projection, et aussi un effet de miroir. Parce que le patient qui se sent perdre sa dignité dans le regard du soignant, eh bien il est confirmé dans son sentiment, renforcé dans ce sentiment par le regard de pitié, le regard de rejet, le regard d'angoisse du soignant. Et je voudrais citer ici le psychiatre Emmanuel Goldenberg qui dit « Quand, dans le service, les soignants ont réussi à reconnaître leur souffrance, à en parler, à en faire non plus une fatalité écrasante, mais un lieu de communication humaine, alors, quand les soignants ont changé, nous avons constaté que les malades changeaient également. » C'est une remarque qui me semble fondamentale. Quand les soignants ont changé, nous avons constaté que les malades changeaient également. Donc notre regard induit aussi le regard que le malade porte sur lui-même. Alors, en conclusion, j'aimerais fonder notre éthique chrétienne. Pour moi, une éthique chrétienne se fonde en Dieu. Et elle a un fondement trinitaire en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et on pourrait s'en découper, bien sûr, la Trinité en trois, hein, puisque les attributs sont partagés par chacune des personnes de la Trinité, mais rattacher la loi au Père, rattacher l'amour au Fils, et je rattacherai la sagesse à l'Esprit, en basant notamment sur l'épître de Jacques, je m'en expliquerai. Alors, la loi, et ces trois éléments, on doit garder ces trois éléments de la loi, de l'amour et de la sagesse. La loi, c'est ce qui est juste. Avec le commandement « Honore ton père et ta mère », dans le livre de l'Exode, il est ajouté des bénédictions afin que tes jours se prolongent, dans le Deutéronome, afin que tu sois heureux. Et ça pose la question, d'ailleurs, ce « afin que tes jours se prolongent », on peut se demander si, ce serait une lecture un petit peu psychologique, mais si la façon dont nous traitons nos parents, nos personnes âgées, ne donne pas un exemple à nos enfants. Et nos enfants nous traiteront comme nous avons traité nos parents, nos... Voilà, donc pensons en termes aussi de ce que nous transmettons aux générations futures en s'occupant de celles qui nous précèdent. Afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux. Voilà, pour que tes enfants ne t'euthanasient pas trop vite. Paul, alors c'est intéressant, Paul ajoute à propos de ce commandement, il dit voilà, aux enfants qu'il est bon d'obéir, car cela est juste. C'est aussi l'argument de la justice. Dieu nous demande d'obéir à sa loi parce que sa loi est juste et droite. Et je crois qu'il y a dans ce fait de vouloir faire mourir ceux qui souffrent, il y a une profonde injustice. Et ce commandement, cette interdiction du meurtre, elle nous garde aussi de l'injustice. Alors, je ne voudrais pas éviter la question de l'exception, de la transgression dans les cas exceptionnels de la loi. Si je l'écarte, j'écarte l'inscription de l'exception dans la loi, dans la législation, parce que cela est, c'est une petite brèche qui fissure le mur et voilà, ça empêche la loi justement de jouer son rôle. Est-ce que l'éthique ne doit pas être personnalisée? Est-ce qu'il n'y a pas des cas individuels? Et au fond, je me rappelle, j'essaye de tenir ensemble ces deux paroles de Jésus, la parole de Jésus qui met en garde contre la transgression des commandements, donc, et même la transgression du plus petit des commandements, et on ne peut pas dire que l'interdiction du meurtre soit le plus petit des commandements. Et en même temps, la mise en garde de Jésus contre les religieux qui mettent sur les épaules des fardeaux, des hommes, des fardeaux pesants, qu'eux-mêmes ne veulent pas remuer du doigt. N'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Ils disent, ces religieux, et ils ne le font pas. Alors, je pense ici à... Alors, cette question, est-ce qu'il n'y a pas des cas frontières où la question de l'aide à mourir se pose? Je pense à cette parole de Jésus, hein, qui dit, qui met en garde contre ceux, voilà, qui mettent des fardeaux trop pesants sur les épaules des hommes. Et alors, ce qui m'a éclairé, c'est un exemple qui est donné dans le livre de Antonovitch, je crois, qui est l'avocat de la DMD, dans son livre qui s'appelle « Fin de vie ». Il donne un exemple qui est souvent cité, c'est l'exemple de ces paysans russes qui ont été amenés à Louis Pasteur. Et alors on voit bien le raisonnement, hein. Louis Pasteur, c'est à la fois une autorité scientifique et morale. Malheureusement, voilà, Louis Pasteur n'a rien pu faire pour eux. Et la mort des suites du virus de la rage, c'est une agonie atroce. Et donc, ils agonisaient pendant des jours. Et Pasteur s'est résolu à faire une préparation donc mortelle pour administrer à ces pauvres paysans russes qui souffraient. Alors, ce qui est très intéressant dans le récit, c'est de Léon Daudet. C'est que il dit quand ça c'est vraiment une description d'horreur, et il dit que voilà, quand ils sont morts, ces paysans russes, eh bien ils ont pleuré d'horreur, ceux qui avaient assisté à ça. Donc, et je dirais que c'est pas du tout, et ça va à l'encontre de l'idée de voilà, on va vous faire une euthanasie clean. C'est pas du tout ça me semble pas du tout un exemple en faveur de l'euthanasie, parce que c'est une mauvaise mort. Et d'ailleurs, dans le récit, l'écrivain dit que cela est fait avec toute la discrétion voulue. Ce qui n'est pas du tout aussi... là aussi, il y a cette idée, voilà, il y a des euthanasies clandestines, il faut la transparence, il faut que... Bon, on sait que la transparence, on n'y arrive pas. Hein, donc, en Belgique et en Hollande, ils le savent. Alors, je reprendrai cet exemple de la rage. En 2004, aux États-Unis, il y a eu le cas d'une jeune fille plongée dans, qui a été atteinte de la rage, et elle n'était pas vaccinée. Et donc, les médecins l'ont plongée dans un coma artificiel. Et elle a reçu des médicaments qui combattaient le virus tout en protégeant le cerveau. Et elle a survécu. Et là, je me dis, par rapport à cet exemple de Pasteur, mais Pasteur a fait cela parce qu'il n'avait pas d'autres moyens. Il y a une question de moyens. Mais si on a d'autres moyens que de mettre à mort le patient, on doit y recourir. Au fond, ces médecins qui ont plongé cette jeune fille, ils ont fait une expérimentation. Ils ont fait preuve de créativité médicale. Et il me semble que c'est à cela que Dieu nous appelle, à partir du moment où on refuse, l'élimination du souffrant comme une facilité, eh bien, il y a une créativité, c'est la créativité de l'amour, finalement. Je pense à ce que me racontait le chef de service des soins palliatifs à l'hôpital de Castres. Elle avait assisté à un congrès, justement, de soins palliatifs francophones. Et ça, ce qui l'avait frappé, c'est le contraste entre le témoignage d'une Belge et le témoignage d'une Suisse. Une soignante belge témoignait du malaise dans son équipe où se pratiquait l'euthanasie. Certains étaient pour, certains étaient contre. Et donc voilà. Et puis, en contraste, le témoignage d'une équipe de soins palliatifs donc en Suisse, qui avait, qui c'était clair, il refusait l'euthanasie. Et donc, au contraire, il y avait une équipe unie. Je pense que le nom de principe, alors après dire que on ne peut pas jamais se retrouver, prévoir tous les cas, qu'on ne peut pas se retrouver devant des situations extrêmes avec des moyens limités. Ça, voilà, hein, Dieu seul le sait. Mais le nom de principe au meurtre, il ouvre un champ à l'amour, il ouvre un champ à la créativité de l'amour. Et dans cette créativité de l'amour, je repense aussi à ce que me disait ce même médecin, docteur Gandon, sur son service de soins palliatifs. Ils avaient constaté que vers 8 heures du soir, c'était un moment très difficile pour les malades allaient mal. Et ça, c'est un phénomène connu. Et le problème, c'était aussi le moment de la transmission. Eh bien, ils ont fait appel à des équipes de bénévoles qui ont été présents auprès des malades. Et ils ont vu des changements vraiment significatifs chez ces malades qui étaient en soins palliatifs, donc en fin de vie. Donc là encore, créativité de l'amour. Je trouve que justement maintenir ce principe de l'interdit du meurtre, il ouvre à la créativité de l'amour. Troisièmement, j'évoquerai la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Je ferai référence à ce que dit Jacques dans son premier chapitre de sa lettre. « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. » Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, agitées et soulevées par le vent. Que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu. Donc, c'est la prière. Et je pense que devant certaines situations, il y a effectivement où on ne sait plus, on est débordé. Où notre intelligence, nos émotions sont débordées. Il faut s'en remettre à Dieu et lui demander la sagesse pour guider nos actes. Et Jacques, plus loin dans sa lettre, utilise l'expression « sagesse d'en haut ». Ce n'est pas la sagesse terrestre, sagesse d'en haut. Donc le mot Saint-Esprit n'est pas utilisé, si vous voulez, là, dans ce passage, mais la réalité du Saint-Esprit est évoquée. Et je crois que c'est une dimension de l'éthique chrétienne très importante, que la spiritualité, la prière, fait partie de la spiritualité. Et Marc Gadfossé évoquait la figure du Christ souffrant sur la croix, qui était pour lui une figure qui le touchait profondément, avec ce cri de Jésus, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et je crois que dans notre spiritualité, il faudrait réintroduire la lamentation. J'ai entendu, je dois cette remarque à Émile Nicole, ancien professeur d'Ancien Testament de la Faculté de théologie, qui parlait des psaumes hier, et j'étais très frappé par ce qu'il disait sur l'effacement, sur l'importance de la lamentation dans la Bible, et dans les psaumes en particulier. Et « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est bien une lamentation. Et par rapport à notre piété, actuelle. Voilà, nous, c'est la louange, les évangéliques. Mais la lamentation, bien oui, la lamentation, se lamenter devant Dieu a aussi sa place. Et je crois que, pour moi, le Christ, face à la mort, il a ce modèle. Il y a vraiment un parcours entre ces deux paroles du Christ. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette souffrance de la séparation, cette souffrance de l'abandon, et le Christ la vit à un autre niveau que nous ne pouvons pas imaginer, parce que c'est le pur qui supporte l'impureté, le péché du monde, qui porte l'impéché du monde, l'impureté du monde. Donc lui qui était en communion avec le Père, il vit, il a été fait malédiction pour nous, hein, dit Paul. Et donc il y a une dimension spirituelle de cette séparation qui est horrible. Et en finale, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je trouve qu'il y a entre ces deux, pour moi, par rapport à la question de l'accompagnement des mourants, vraiment une suivance du Christ, de la lamentation à la confiance. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et enfin, je voudrais conclure sur l'espérance, qui est une donnée fondamentale de la spiritualité chrétienne. Dieu donne l'espérance de la vie éternelle et de la résurrection. Alors, j'avais préparé une belle diapositive, mais vous irez regarder le retable d'Isenheim, la résurrection. Et c'est extraordinaire, c'est un corps qui semble échapper à la gravité. Hein, d'ailleurs, ça a fait réagir le médecin qui faisait la conférence avec moi en disant que justement il prenait la question de l'image du corps, hein, ils en prenaient compte. Par rapport à la défaite du corps, hein, dans la maladie et la mort, nous vivons une défaite du corps. L'espérance de la rédemption non seulement de notre âme, mais Paul parle de la rédemption de notre corps. Dieu veut nous sauver corps et âme. Alors bien sûr, autre est le corps qui est semé, hein, c'est semé un corps misérable, mais ce corps, il n'est pas rien, il est une graine du corps futur. Et donc ça donne aussi un respect par rapport à ce corps, ça revalorise. Comme le dit le théologien anglican Oliver O'Donovan, la résurrection du Christ prend doublement la défense de l'ordre créé. Elle le sauve et le transfigure. Ce fruit de la création qui est le corps humain, qui là est abîmé, Dieu le reprend et le transforme et le sauve. Et c'est en regardant la résurrection du Christ que nous pouvons essayer de penser, d'imaginer justement ce salut de notre corps. Et je crois que cette espérance, elle change complètement notre vision du monde et elle change aussi nos choix moraux. Et dans ce monde, il y a une absence d'espérance en la providence de Dieu, qui mène justement au désespoir et à la mort. Donc, soyons, nous, chrétiens, quelle que soit notre profession, des témoins d'espérance.